L'histoire nous transmet l'éminente responsabilité d'être à la hauteur.
Front populaire, la semaine de 40 heures.
Congé payé, 563 voix pour, une contre. Convention collective, 563 pour, 5 contre. La semaine de 40 heures.
Ça a été plus difficile, hein? Mais voter, ce sera ma fierté d'avoir modifié la vie du peuple, à l'usine et hors de l'usine.
La philosophe Simone Veil, qui avait choisi de travailler en usine, a laissé des pages inoubliables sur les grèves qui, après la victoire du Front populaire du 3 mai 36, concernent quelques 2 millions de travailleurs. On n'a pas eu la force d'attendre, après avoir toujours plié, tout subi, encaissé en silence pendant des mois et des années, oser enfin se redresser. Au-delà des accords signés à Matignon, deux mesures que le programme du Front populaire n'avait pas explicitement prévues seront votées à la Chambre, 15 jours de congés payés, on l'a entendu, et la semaine de 40 heures payée, 48. André Philippe, le rapporteur, donnait à ce choix une justification non seulement sociale mais économique. L'augmentation de fait des revenus devait favoriser la demande, la production et l'emploi. Il a paru assez vite que c'était les prix qui augmentaient et que la capacité d'exportation des produits français était atteinte. En 1937, le débat autour des 40 heures s'organise en bataille rangée. Léon Blum note qu'il s'agit d'un théâtre destiné à dissimuler le problème numéro un, le refus d'investissement des détenteurs de capitaux. Le grand leader de la droite parlementaire, Paul Reynaud, n'est pas loin de penser la même chose, mais lui est convaincu qu'il faut un coup de force psychologique. Sans l'abandon de la réduction du temps de travail, les capitaux ne reviendront pas. En 1938, vient l'épreuve de force.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Gérard Wint, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Un numéro de la revue dont vous êtes un des piliers, Alternative économique, le numéro de mai, est consacré à la réduction du temps de travail au nom de la création d'emplois, du changement nécessaire de la nature du travail. Et vous, vous signez dans ce numéro l'article consacré au temps de travail pendant l'époque du Front populaire. Ça serait peut-être bien, Gérard Wint, de recontextualiser, de dire que en 1936, avant ce vote, on en était à la semaine de 48 heures, en principe, laquelle, il y avait un long mouvement quand même de réduction du temps de travail qui était enclenché depuis longtemps, avait été décidée en 1919. Mais quelle 48 heures de travail ?
Oui, effectivement, la loi des 8h-48h, qui a été décidée en 1919, en quelque sorte pour récompenser la classe ouvrière d'avoir assuré son rôle pendant la guerre, en tant que soldat et en tant que travailleur de la défense nationale. Donc, cette loi est appliquée, on peut dire, mais d'une certaine manière, c'est-à-dire que elle offrait beaucoup de dérogations possibles. Non seulement les salariés travaillent 48 heures, mais souvent beaucoup plus en fait, sans parler du fait que c'était pas toujours bien contrôlé. Et en même temps, ces 48 heures, c'était 48 heures de travail effectif, c'est bien précisé dans la loi. C'est-à-dire que on ne compte pas le temps d'habillage, on ne compte pas le casse-croûte, les pauses peuvent être décomptées, etc. Et en même temps, ça s'accompagne dans le même temps d'une, ce qu'on appelle à l'époque, d'une rationalisation de la production, dont le terme le plus connu est la taylorisation. Donc une intensification du travail vraiment remarquable dans cette période des années 20.
Décrite parfaitement dans les articles et les textes de Simone Veil, professeur de philosophie qui avait décidé de s'engager longuement dans le travail en usine et qui racontait que dans ce système taylorisé, elle vivait dans la peur, irais-je assez vite.
Compter 50 pièces, les placer une à une sur la machine, d'un côté, pas de l'autre. Manier à chaque fois un levier, ôter la pièce, en mettre une autre, compter encore, je ne vais pas assez vite. Il faut forcer, empêcher qu'un instant d'arrêt sépare un mouvement du mouvement suivant. Plus vite, encore plus vite. Jusqu'à la sonnerie, on travaille comme si on en avait encore pour des heures. À 6 heures, la sonnerie n'a pas encore commencé à retentir, que toutes se lèvent comme mues par un ressort, courent pointées, courent au vestiaire, enfilent leurs affaires en échangeant quelques mots, courent chez elles.
Court chez elle avec une peur, celle de ne pas trouver de place assise dans le métro, ajoute Simone Veil, et dans son cas, une angoisse. Elle va marcher vers la Seine et elle se dit un jour, je me jetterai dans la Seine.
Oui, Ces textes de Simone Veil sont vraiment remarquables de perspicacité et de sensibilité. Elle décrit bien ce que les ouvriers et des militants aussi ont dénoncé depuis longtemps, ce que Pouget appelait le surmenage, l'organisation du surmenage. Et il y a effectivement un gros effort du point de vue du patronat de rationalisation du travail, ce que Simone Veil appelle le remplacement du rythme naturel du travail par la cadence. Cette distinction est intéressante. Et c'est appliqué aussi dans des services, par exemple dans les grands magasins. Et en même temps, ça s'accompagne d'une récompense ou de sanction. C'est-à-dire que c'est une période où se généralise, par exemple, le travail aux pièces. Il y a des méthodes qui viennent quelquefois des États-Unis pour des salaires au rendement, notamment la célèbre méthode Bedeau, qui est appliquée dans la métallurgie, dans beaucoup d'usines, mais aussi bien au service des expéditions de la Samaritaine.
Alors, puisque vous parlez des grands magasins, Simone Veil écrit que dans les ateliers, c'est la joie pure et sans mélange qui s'impose pendant la grève. Le fracas des machines fait place au rire et à la danse. Mais c'est la même chose dans les grands magasins. Une rareté issue de la collection de Martin Penet. Nous sommes au printemps. Gérard Vint, écoutez bien, les vendeuses sont en grève. Elles ont constitué une chorale avec leurs partitions, les petits formats, ou bien un carnet de chant, et voici que les visites une vedette, Champy, qui va les faire chanter en chœur.
Allô, allô, ici Printemps. Mes chers amis, nous avons le plaisir de vous présenter notre grand et très sympathique comique, j'ai dit Champy.
On va chanter la grève du printemps, ça boum. Alors, 1, 2, 3.
Et comme on riait, on s'amusait, les jours allaient vite à passer. Je me suis trompé, mais ça ne fait rien, le cœur bercé d'un doux entrain. Et quand enfin arrivait l'heure de repartir, on se disait, venez demain à la même heure, comme on dansait, comme on riait, les jours de la nuit.
In vivo, les jours de grève du printemps, sur l'air des beaux dimanches de printemps, c'est un succès de l'époque de Redaker. Les négociations vont être assez rondement menées après que le gouvernement Léon Blum a été investi, sous les sarcasmes des nationalistes d'extrême droite qui n'aiment pas qu'un juif descendu des Carpates, sikh, s'installe à Matignon. Les négociations, elles ont lieu justement au siège de la présidence du Conseil, qui est maintenant à Matignon. Il y a des mesures qui relèvent de l'accord entre la Confédération Générale de la Production Française, c'est le nom qu'a le patronat à l'époque, la CGT, qui a plus d'un million d'adhérents, et le gouvernement, et puis d'autres qui relèvent de la loi, Gérard Vint.
Oui, donc ce passage que vous venez de diffuser est intéressant d'abord parce que il y a la grève. On ne dira jamais assez que la grève joue un rôle d'accélérateur. Même si on peut dire que la réduction du temps de travail était programmée, même si c'était pas précisé dans le programme du Rassemblement populaire, il y avait ce projet de réduire le temps de travail sans diminution de salaire. Mais ça devait passer par la loi et non par un simple accord, je dirais, entre ce qu'on appellera plus tard les partenaires sociaux. Donc, dès son investiture, dans son discours d'investiture, Blum annonce qu'il va tout de suite déposer à la Chambre ces projets de loi sur les 40 heures et les 15 jours de congés payés. Ce qui est fait à partir du 11-12 juin et ce qui sera finalement voté le 21 juin à la Chambre.
Et le Sénat va confirmer.
Absolument.
Ça a été un peu plus difficile pour la semaine de 40 heures que pour les congés payés qui ont été votés quasiment à l'unanimité. Après vient la question de l'application. C'est une question naïve que je vous pose, celle d'un individu du 21e siècle. On aurait pu calculer l'année de 2000 heures, On n'était pas obligé de penser à 15 jours de congés payés tous pris au mois d'août, ou à la semaine de 40 heures, qu'on appelait la semaine des deux dimanches, parce que le samedi redoublait maintenant le dimanche.
Ouais, disons que c'est les opposants, notamment d'ailleurs Paul Reynaud, hein, qui parlait de la semaine des deux dimanches. Disons qu'auparavant, au 19e siècle, on comptait en journée de travail, et on était payé à la journée. Et en fait, ce comptage à la semaine s'impose en 1919, avec la semaine de 48 heures finalement. On passe de la journée de 8 heures à la semaine de 48 heures sur 6 jours.
Et puis le mode normal de calcul pour un ouvrier ou pour un patron, c'est la semaine. Et là, la paye, elle est versée à la fin de la semaine.
La paye est versée à la fin de la semaine. Et en même temps, d'ailleurs, je le signale, les licenciements qui pouvaient être immédiats, depuis une loi de 1928, normalement, il y a un préavis théorique qui n'est pas toujours appliqué, mais enfin, il y a un préavis de 8 jours. Donc, c'est la semaine devient la manière de compter finalement le travail salarié et ouvrier en particulier.
Pour illustrer les difficultés d'application selon les secteurs différenciés, nous avons ici un exemple d'un domaine marqué par l'éternité et non pas la semaine, c'est le Plessis Vaudreuil, au plaisir de Dieu, le roman de Jean d'Ormesson, où on voit le vieux duc Sosthène, Jacques Duménil, dans l'adaptation télévisée de Mazeuillet, en visite chez ses gens.
Bonjour, monsieur Sosthène. Et puisque vous avez la bonté de venir nous voir dans la cuisine, nous voulions vous dire...
Très bien dit.
C'est rapport à la nouvelle loi sur les congés payés. Dans le journal, on dit que tout le monde y a droit, même les gens de maison.
J'ai lu quelque chose comme ça dans le journal.
Et aussi, on disait que la semaine de 40 heures...
Et puis, l'augmentation.
Moi, c'est surtout d'avoir un jour par semaine. Un jour entier pour aller voir ma femme et ma fille, et pas une de mes journées par-ci, par-là. Nous aussi, monsieur le duc, il nous arrive d'avoir une famille.
Oh, ce n'est pas pour vous ennuyer, monsieur Sosthène, mais c'est que si on y a droit...
Ah, mon Dieu. Ah oui, si vous y avez droit. Ah ben, je sais bien que les temps ne sont plus comme ils étaient, ils ont changé. Et alors là, oui, j'ai peur d'être un peu... dépassé.
Et il va confier à son intendant la charge d'appliquer la loi des 40 heures. Comment se fait d'ailleurs l'application secteur par secteur? Est-ce qu'on parle de branche? Branche par branche? Combien de temps ça prend, Gérard Vigne?
Oui, on a déjà une organisation en quelque sorte hein, de la production branche par branche. Ça vient déjà de la Première Guerre mondiale. Puis ensuite, on retrouve ça dans les conventions collectives qui sont prévues en 1919. Très peu mises en pratique, très peu appliquées, très peu négociées. Mais théoriquement, c'est prévu. Et c'est déjà prévu par branche. D'ailleurs, les statistiques générales de la France enregistrent l'existence de ces branches. Il y a toute une nomenclature qui précise quelles industries appartiennent, par exemple, à l'Union des industries, aux industries métallurgiques et minières. Et les décrets d'application qui vont être s'échelonner d'octobre 36 à juillet 37 à peu près vont se faire donc branche par branche.
Et sur une année. Je signale au passage, c'est une parenthèse, que 17 ans après la loi de 1919, que vous citez souvent sur la semaine de 48 heures, les décrets d'application concernant les hôpitaux et la réduction du temps de travail, question récurrente. Et la restauration n'était toujours pas parue. On pourrait à cet instant, Gérard Vigne, te mettre une chanson façon alternative économique, le genre Gilet Julien, vous savez, ah qu'elle était longue la semaine sans débrayer, sans repos et sans espoir, mais nous allons nous faire les avocats du diable parce qu'on va maintenant parler des difficultés de l'application de la loi de 40 heures. Et voici une chanson déjà passablement ironique et critique qui date de 1936, signée Charlis et Romani.
Autrefois le peuple était réduit à l'esclavage, il travaillait le jour et la nuit comme un sauvage. Heureusement qu'il vient d'obtenir des avantages, il ne songe plus qu'à ses loisirs et qu'à ses plaisirs. La semaine de 40 heures, c'est des patents. On peut quitter sa demeure 3 jours durant. S'en aller à la campagne, respirer un peu d'air pur, à la mer, à la montagne, jusqu'à la côte d'Azur. Car on se donne tellement de peine dans le boulot que 40 heures par semaine, c'est encore 39 de trop.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
La semaine de 40 heures depuis l'instauration du Front Populaire, un dossier sur la réduction du temps de travail dans l'alternative économique du mois de mai, et un article dans ce numéro signé par vous, Gérard Vint, sur la période 36-38. Quand c'est le début du Front Populaire, le vieux leader socialiste braque des Rousseaux, de sa voix que je ne saurais imiter, dit « Ça y est, c'est formidable, les difficultés commencent ». Alors, les difficultés économiques qui vont être manifestes dès l'automne 1936, est-ce qu'elles ne sont pas dues en partie par l'application de la mesure des 40 heures qui s'accompagne d'une hausse des salaires? Alors ça va peut-être provoquer, je me fais l'avocat du diable, la hausse des prix?
Incontestablement, il y a une hausse des prix de revient qui est lié à la fois donc aux 40 heures payées 48 et au fait que lors des accords Matignon, la CGPF les a signés.
La Confédération générale de la production française.
De la production française, c'est pas encore le patronat, ça le sera bientôt. Et donc qui prévoit entre 7 et 15% d'augmentation suivant les cas. Et donc effectivement, on peut estimer qu'il y a d'entrée de jeu déjà une augmentation des prix de revient assez importante, estimée à 30%, 40%, enfin quelque chose.
Ce qui ne va pas, camarade Vint, améliorer la productivité, la compétitivité française.
Oui, alors
les produits à l'exportation vont être plus chers.
C'est une vraie question, mais dans le projet, en quelque sorte, dans le programme économique, parce qu'il y a derrière cela le programme économique dit de la reflation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui consiste à penser que le patronat va avoir à répondre à une demande supplémentaire de la part de la population qui va être plus argentée et donc va pouvoir avoir un chiffre d'affaires plus important et finalement compenser par la quantité, la production, faire baisser le coût unitaire de la production grâce à une production plus importante. Le problème numéro un qui est souligné par les économistes, qui sont Georges Boris, un certain nombre de gens qui sont derrière un petit peu tout ça, c'est qu'il faudrait en fait dévaluer tout de suite. Mais pour des raisons politiques, on ne peut pas. Mais c'est vrai que de toute façon, les prix français sont très supérieurs. Enfin, sont supérieurs aux prix étrangers, notamment aux prix anglais et américains, depuis 1931, 33, 34, depuis la dévaluation de la livre et du dollar. Et c'est ça le problème, en fait.
La dévaluation va quand même avoir lieu à l'automne 1936, peut-être trop tard. Les difficultés internationales vont s'accumuler. On ne va pas détailler les conséquences de la guerre d'Espagne qui éclate, le Parti communiste qui branle aussi souvent dans le Manche. En mars 1937, une grave crise qui s'illustre par des morts et des émeutes à Clichy. Le gouvernement Blum tombe en juin 37, mais la majorité du Front Populaire demeure, avec un autre président du Conseil, Chautan, un instant Blum de nouveau en 1938, et puis arrive Édouard Daladier, un radical, qui est plutôt à la droite du parti radical. Et lui va commencer à ébrécher la loi des 40 heures en proposant une diminution du tarif des heures supplémentaires payés quand on fait plus de 40 heures. Voici le président du Conseil.
Je ne suis animé que d'un seul souci, et je devrais dire d'une seule passion, celle de la sécurité de la France, celle de la grandeur de la France. Que tous les Français, faisant trêve à leurs divergences secondaires dans la situation présente de l'Europe et du monde, accomplissent l'effort que commande le salut de leur patrie. Remettons la France au travail et nous sauverons la paix.
Le 2 septembre, l'Union des syndicats ouvriers de la région parisienne avait convié les travailleurs à manifester pour la défense des lois sociales menacées. L'attaque contre les 40 heures au moment où l'union du peuple français, face aux menaces extérieures et plus nécessaires que jamais, va à l'encontre des intérêts de la paix et de la défense nationale. Notre défense nationale exige en effet la défense des libertés démocratiques et des lois sociales, proclament Henri Reynaud et Julien Racamon au nom de la CGT.
Ce meeting du début septembre au Veldiv, en face de la maison de la radio actuelle, est dominé par les communistes qui vont prendre le large et quitter la majorité. Vous voyez comment se présente la mi-38 le débat. Daladier insiste sur la nécessité de renforcer les industries de défense face aux Allemands qui outrepassent, bien sûr, toutes les règles en matière de temps de travail. Vieille critique contre le Front populaire, oui. Sa responsabilité dans le développement de la défense nationale.
Oui, alors d'abord, faut rappeler que dans les décrets d'application de la loi des 40 heures, hein, puisque c'est elle un petit peu qui est pointée du doigt, qui aurait empêché finalement la France de travailler suffisamment à sa défense. Là, j'ai sous les yeux le décret d'application de la loi des 40 heures pour les industries métallurgiques et minières. Et qui prévoit des dérogations en cas de nécessité dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationale. Là, on est le 26 octobre 1936. Donc c'était quelque chose qui était anticipé. D'autre part, le gouvernement va mobiliser beaucoup d'argent va augmenter les crédits très rapidement de la défense nationale.
Et ça 1937, sera d'ailleurs... les dépenses militaires, c'est 31% du budget de l'État contre 21% en 1935.
Absolument. Il y a une forte augmentation du budget de la défense nationale lors du premier gouvernement du Front populaire. C'est quelque chose qu'on ignore souvent. Ça va d'ailleurs aggraver les problèmes monétaires et financiers. Et ça va être un des éléments essentiels de ce qu'on appelle la pause en février 37. Le fait que le gouvernement il est coincé un petit peu par cette situation internationale qui lui impose un réarmement accéléré.
Si les chars modernes ne sont pas bien disposés dans l'armée française, disséminés et dispersés, non pas concentrés comme dans l'armée allemande, c'est la faute de l'état-major, c'est pas la faute des mesures économiques du Front populaire.
Ah, il faut relire l'étrange défaite
de Marc Bloch
qui résume bien ça, je dirais.
On était début septembre 38, fin septembre, sont survenues la crise tchécoslovaque, la première mobilisation générale. Il y a eu une mobilisation générale à ce moment-là et les funestes accords de Munich. Daladier est toujours président du Conseil. Mais maintenant, c'est un homme venu de la droite parlementaire. La majorité va maintenant des radicaux à la droite parlementaire parce que les socialistes eux aussi ont pris le large. C'est un homme de la droite parlementaire qui tient les finances, c'est Paul Reynaud que vous avez cité, et il tire une salve de décrets-lois qui vont enterrer complètement en novembre 38 les 40 heures. On entend Paul Reynaud, puis un de ses principaux conseillers, l'économiste Alfred Sauvy.
J'affirme que le pays peut guérir, comme j'affirme que s'il ne s'arrêtait pas aujourd'hui sur la pente savonnée sur laquelle il glisse, il irait à sa perte. Tous les Français sentent confusément depuis longtemps la nécessité d'un grand effort commun.
Et le résultat était une grève générale, parce que ces décrets étaient extrêmement mal vus. De l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par le centre, avec des arguments différents, mais le pronostic était le même. Tout le monde affirmait que ces décrets ne feraient que précipiter l'économie dans un déclin plus grand. Or, on a vu au cours et à mesure de ces mois, on a vu l'économie française repartir comme jamais elle n'est repartie et avoir une progression comme jamais elle n'en a eu. Je vous assure que j'ai eu un moment de très grande satisfaction, qui a été suivi de déceptions plus tard, beaucoup plus tard et même encore aujourd'hui, parce que cette leçon, cette expérience vivante n'a été retenue par personne. On n'a pas retenu les leçons et on n'a pas compris comment fonctionne une économie moderne.
Alors, reprenons point par point l'argumentation d'Alfred Sauvy, qui a été dominante très longtemps. C'est pour ça que nous la citons. Gérard Wint, il y a eu une grève générale, dit-il. Alors, il ajoute, moi je ne suis pas occupé de la répression, c'était pas du tout mon boulot au cabinet de Paul Reynaud. La grève générale de novembre 38, elle a mobilisé 25% du secteur privé. Ça n'a pas été une petite grève générale et elle a été très durement réprimée.
Oui, il y avait un enjeu extrêmement fort. En fait, l'enjeu Bon, c'est, officiellement, c'était autour du temps de travail hein, et des heures supplémentaires. Et du paiement, du niveau de paiement qui passe de 25% à 5 à 10%. Bon. Mais au fond, derrière tout ça, il y a, du point de vue du patronat, la nécessité qui est en lien très fort avec Paul Reynaud, hein, les grands dirigeants des grandes entreprises, notamment de l'UMM, sont en contact avec Paul Reynaud, notamment Gignoux, en fait, un certain nombre de gens. Et en fait, ils veulent remettre la France au travail, comme disait Daladier tout à l'heure. Le problème, c'est pas tant les 40 heures au bout du compte, mais c'est que les gens acceptent à nouveau de travailler extrêmement intensément, suivant les cadences d'avant la grève. Hein, alors qu'ils sont, comme le disait Simone Veil, revenus à un rythme naturel de travail. Et en même temps, il y a une contestation de la hiérarchie et de l'autoritarisme de ce qu'on appellera plus tard les petits chefs.
Oui, mais c'est la nécessité pour faire revenir les capitaux. Il faut casser la CGT. Paul Reynaud le pense intimement et très clairement. Son conseiller Alfred Sauvy dit... Son interprétation, contrairement à ce qu'il explique, a été beaucoup retenue dans les manuels d'économie. Son conseiller dit que ça a été une catastrophe, cette histoire des 40 heures pour l'économie française. C'est, ajoute-t-il, l'équivalent du départ des entrepreneurs huguenots pendant la crise de la révocation de l'édit de Nantes en 1685.
Il est certain que on était dans une période de lutte de classe. Je veux dire, de lutte de classe de la part du patronat, qui n'a absolument pas joué le jeu, pas du tout. On peut dire qu'il y a presque une grève de l'investissement, on pourrait dire.
Et un départ des capitaux aussi vers l'étranger.
Absolument.
Vous employez le mot patronat, la Confédération Générale de la Production Française est devenue la Confédération Générale du Patronat Français.
Oui, pour essayer de regrouper derrière finalement les grandes entreprises, les petites qui en voulaient beaucoup à la CGPF d'avoir signé les accords Matignon. Hein, donc il va y avoir une remobilisation très forte du patronat, ce qu'un auteur, Colboom, a appelé la revanche des patrons. Et là, on rentre dans la période de la revanche des patrons. Et cette fois-ci, ils ont effectivement un allié au gouvernement avec Paul Reynaud.
Mais les capitaux revenants les ouvriers acceptant de reprendre leur boulet et puis les impératifs de la défense nationale étant de plus en plus mis en épingle, on a inversé la courbe du chômage, dit Alfred Sauvy.
On ne peut pas dire que la courbe du chômage, elle a été déjà inversée sous Léon Blum. Hein, finalement, les 40 heures, ça vaudrait le coup d'aller voir ça d'un petit peu plus près. On a du mal à avoir des statistiques probantes. Comme pour les 35 heures aussi d'ailleurs. Hein, mais il y a eu une reprise, il y a eu une diminution du chômage en France entre juin 36 et début 37. Donc il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Hein. Il y a aussi la dévaluation qui joue et la compétitivité des entreprises françaises sur le marché international. Donc c'est un sujet certainement assez compliqué.
Hein. C'est la deuxième émission et la dernière consacrée au Front Populaire. Encore que demain, on entendra un extrait d'un oratorio commandé par le gouvernement du Front Populaire en l'honneur de Jeanne d'Arc. On fait une émission sur l'histoire du mythe de Jeanne d'Arc. Mm-hmm. Le principal quotidien français de 2016, c'est-à-dire Ouest France, titre « Que reste-t-il du Front Populaire ?» C'est sur sa une. C'est avant que François Hollande n'intervienne au théâtre du Rond-Point sur le Front Populaire aujourd'hui.
Mais je pense qu'il reste finalement beaucoup de choses, alors surtout beaucoup de choses à défendre. Mais par exemple, le principe des conventions collectives. Le fait qu'un salarié ne soit pas tout seul face à son patron. Ou même que des ouvriers ne soient pas tout seuls face à leur entreprise. Mais que ce soit discuté au sein d'une branche, par exemple. Ça, c'est un enjeu qu'on retrouve dans la loi actuelle. L'histoire de la diminution du temps de travail, ça reste un débat très actuel. Hein, aujourd'hui, ça l'a été lors des 35 heures, mais ça reste un débat très actuel. Et donc, il y a aussi l'existence de partenaires sociaux qui dialoguent, etc. Donc, il reste beaucoup de choses. Là,
La réduction du temps de travail, c'est d'ailleurs le titre, puisqu'on parle de titre de publication d'Alternatives économiques, numéro du mois de mai. L'émission a été préparée par Franck Olivard et Martin Penel. La technique, Dimitri Gronoff. La réalisation, c'était Jacques Sigal. Alors, j'ai dit qu'on parlerait de Jeanne d'Arc. Nous, demain, dans la marche de l'histoire... Et dans la tête au carré, Mathieu Vidard, quel est votre programme?
Eh bien, on va s'intéresser, Jean, aux nanostructures dans le vivant. C'est une nouvelle échelle très inspirante pour copier la nature.
Qu'est-ce que c'est que les pattes du gecko? Vous nous ouvrirez
oui,
les ailes tout à l'heure sur ce sujet?
Absolument, on va en parler.
Merci à vous donc à 14h et quelques minutes.